13 Passions, une émission de Roger Bouichou, présentée par Denis Arcas et Roger Bouichou, sur Radio Marseillette 101.3.
Amis présistes, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour cette émission 13 Passions. Cela fait un moment, hein, ça fait un mois qu'on ne s'était pas retrouvés, donc je vous mets tout de suite en relation avec Denis, en attendant que Roger appelle, mais je crois qu'il appelle. Bonsoir Denis.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Lian, et oui, Roger, le grand chef va arriver. En attendant, je vous présente à toutes et à tous, j'ai pas eu l'occasion de le faire, en tous les cas, sur cette antenne, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, bon, en particulier, je pense que cette période de pandémie, ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est la santé, c'est essayer de passer à côté de ce microbe qui malheureusement frappe tragiquement le monde entier, et espérer que on en sera bientôt, dans tous les cas dans ce courant de cette année 2022, définitivement débarrassé.
Voilà, monsieur Bouichou est avec toi.
Monsieur Roger, bonsoir.
Oui, Denis, tu as des problèmes de dentier. J'ai entendu parler que mon dentier t'a dit, t'as des problèmes aux dents, vous ne le savez pas. Bon. Oui, bonne année
ça
à
commence.
Tous. Bonne année. Oui. Bonne santé à tous quand même. Et puis Denis, moi si je gagne l'auto, tant pis, je prends l'argent. Voilà.
Oui, oui, ma grand-mère elle me disait bonne santé, mais la main au porte-monnaie. Donc Roger,
voilà. C'est pas mal. Voilà, d'accord. Mettre la main au porte-monnaie, mais pour moi. Voilà. Allez. Bon, mission spéciale ce soir, puisque pendant une demi-heure, nous allons recevoir M. Luc Lacoste, le président de la Fédération française de rugby à 13. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va faire le point sur la Coupe du Monde qui a été accordée à la France et ça va se dérouler en 2025. Et évidemment, nous allons lui poser quelques petites questions dès que nous l'aurons à l'antenne, parce que je sais que déjà Ilian est sur le téléphone et il appelle le président qui nous attend. C'est un événement important, hein, pour le rugby à 13 français.
Énorme, Roger, énorme, énorme.
Oui, oui, colossal.
Franchement, Roger, on n'aurait pas cru que qu'un jour on annoncerait ça sur l'antenne de Radio Marseillette, quand même.
Et c'est pas un miracle. C'est pas une bêtise, parce que M. Lacoste est avec vous.
Ah, président, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, alors, président. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. En tout cas, bonsoir
très bien.
À vous. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Et avant toute chose, tous mes voeux vous accompagnent et accompagnent Radio Marseillette et tous ses auditeurs pour l'année 2022. Voilà, en espérant que ce sera l'année de sortie de crise. Et si c'est le cas, alors elle sera parfaite.
Mais dans tous les cas, nous, on vous présente les nôtres de vœux aussi.
On a eu l'occasion
de le faire.
Ouais, les vœux de très bonne santé et beaucoup de bonheur pour le rugby à 13. Alors, président Lacoste, il y a eu un événement cette semaine, hein, puisque la Fédération française a la mission d'organiser la Coupe du Monde du rugby à 13. Alors, président, première question, est-ce que tous les matchs se dérouleront sur le sol français?
Alors, petite précision, votre honneur, si je puis me permettre, ce n'est pas la Fédération française qui a la charge de l'organisation. C'est un comité d'organisation qui est indépendant de la Fédération française. Et c'est bien normal. Comment les autres nations pourraient-elles accepter que la Fédération française puisse être l'organisatrice, puisqu'elle aurait plutôt tendance à favoriser, même si nous avons un grand cœur, à favoriser les équipes de France au détriment des autres compétiteurs. Donc non, c'est un comité d'organisation qui est indépendant, mais au sein duquel, dans le conseil d'administration et autres, il y aura bien évidemment la fédération. Mais il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté un organisateur qui a la délégation d'organiser une Coupe du Monde venant de l'IRL, l'International Rugby League, et la fédération reste la fédération, etc. bien évidemment que cette organisation de Coupe du Monde va largement bénéficier à notre rugby à 13 et que des passerelles il y a entre l'organisateur et la fédération. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas directement la fédération qui va organiser la Coupe du Monde en tant que
telle. En vous posant cette question, Président, je savais que vous alliez me répondre ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « c'est la Fédération française de rugby à 13 ». Je vous ai tendu la perche, vous l'avez bien saisi, Président.
Oui, alors, mais vous savez, nos cousins de du rugby à 15, c'est pareil, hein, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public, qui gère la Coupe du Monde, et ce n'est pas directement la Fédération. Mais ça ne peut pas l'être pour une raison juridique, d'éthique, et de d'équité sportive.
D'accord. Alors, deuxième...
Alors, par contre, pour les matchs...
Voilà, tous les matchs auront lieu...
L'ensemble, absolument. L'ensemble des matchs auront lieu en France. D'abord parce que ça a été notre souhait, et puis une des bases de notre projet est ce que l'on appelle la RSE, responsabilité sociale des entreprises et environnementale, qui fait en sorte que on n'ait pas des matchs qui se jouent un coup en Serbie, un coup ici, un coup ça. Vous savez, la dernière Coupe d'Europe de football a été une catastrophe en termes de bilan carbone, et de nos jours ça ne se fait plus. Donc tous les matchs en tout cas auront lieu sur le sol français.
Combien de matchs au total ça fait entre toutes les compétitions de la Coupe du Monde? Ça fait c'est un chiffre énorme.
128 matchs. 128 matchs au total entre les matchs de poule, les quarts, demi et finale. Ça fait 128 matchs. En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, vous aurez 16 équipes par discipline, fois 4 disciplines, puisqu'il y aura les hommes, les femmes, les handis fauteuils et les jeunes, qui joueront en même temps, répartis sur 5 semaines. Et donc 16 équipes x 4, ça fait 64 équipes. Et quand vous faites le calcul général, vous arrivez à 128 matchs.
Ah, Président, alors, vous venez de parler des jeunes. Alors on reviendra sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Mais là, c'est la nouveauté. C'est la première fois dans une Coupe du Monde de rugby à 13, et je pense, dans Coupe du Monde, je ne sais pas, dans d'autres sports, qu'il y aura, en même temps que les seniors, les féminines, les fauteuils, une Coupe du Monde réservée aux jeunes. Alors, ces jeunes, ça sera les moins de 19 ans.
Alors, deux points. C'est la première fois au monde qu'un sport organise une Coupe du Monde avec les quatre disciplines en même temps. Ça n'a jamais existé. Hommes, femmes, fauteuils et les jeunes. Ça n'a jamais existé. Donc c'est vraiment une nouveauté, c'est une singularité, et c'est ce qui fait toute la richesse de notre projet, de notre business plan, comme on dit, de nos jours. Bon. Les jeunes... oui, ce seront ce que l'on appelle les U19, pour plusieurs raisons, même si cela mérite encore d'être encore un petit peu affiné, mais ça sera dans ce sens-là. Pour plusieurs raisons, d'abord, il faut une qualité, non pas que les moins de U19 ne soient pas qualitatifs, il faut quand même une grande qualité de spectacle, hein, puisqu'il faut aussi que les stades et les équipes qui viendront fassent et montrent du très beau rugby. Ça a été une très longue conversation d'ailleurs avec l'IRL, donc ça sera plutôt les U19.
D'accord. Alors, Président, ça ne fait plus match, il va falloir des villes qui les organisent. Il y a déjà pratiquement, même peut-être plus, une quarantaine de villes qui se sont portées candidates.
Absolument. Notre volonté, dans le cadre du projet qui a rencontrer très vite l'adhésion de tous, que ce soit de l'IRL et ou du gouvernement français, c'est qu'on a voulu un sport accessible à tous et un sport pour tous. Accessible à tous, ça voulait dire deux choses. Un, faire en sorte que son prix de base, le prix de la billetterie, soit un prix relativement faible, voire très faible pour un événement mondial. On ne dépassera pas 30 euros. Et deuxièmement, qu'ils soient répartis sur le maximum de lieux sur le territoire. Donc les villes et qui correspondent plutôt bien à notre modèle économique, qui sont les villes de taille moyenne. Bon. Pour accueillir 128 matchs, il faut effectivement une quarantaine de villes, 40 villes en l'occurrence. Nous avons au mois de juillet 2021 lancé ce que l'on appelle un AMI, appel à manifestation d'intérêt. C'est comme une procédure d'appel d'offres public en quelque sorte, et nous avons demandé, au travers de la définition de notre projet, en montrant notre projet, nous avons demandé à 250 collectivités sur le territoire national de vouloir répondre à cet appel à manifestation d'intérêt et nous montrer si elles étaient intéressées ou pas pour recevoir soit des compétitions, c'est ce que l'on appelle des villes hôtes, soit des camps de base, c'est-à-dire l'endroit où les équipes viendront s'entraîner, rentrer le soir, etc. etc. À cet avis d'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé avec les équipes du gouvernement et notamment le plan Action Cœur de Ville, qui est un programme de l'État qui gère 252 communes en France. Nous avons lancé donc notre avis d'appel à manifestation d'intérêt avec une réponse souhaitée pour le 6 septembre et nous avons eu environ 77 manifestations d'intérêt. Sur ces 77 manifestations d'intérêt, pour l'instant, nous en avions 38 avec lesquelles nous sommes déjà rentrés en négociation. Mais chaque jour, depuis l'annonce, depuis donc mardi, nous avons, et le comité d'organisation reçoit des nouvelles demandes de participation. On a des villes que je ne nommerai pas ici, mais que vous connaissez bien, qui sont d'ailleurs du monde présiste, qui se sont un peu réveillées depuis l'annonce. Et qui effectivement se disent, waouh, mais alors c'est vrai, c'est donc maintenant un projet qui est sur la table, et plus qu'un projet, une réalité, on va se porter candidat. Donc, vous voyez, les 40 villes, je n'ai absolument pas de crainte sur le fait que, dans la multitude des villes qui répondent, nous aurons les plus belles communes, et celles qui seront vraiment motivées pour faire de cette Coupe du Monde un bel événement.
Alors, Président, qui dit Coupe du Monde, dit beaucoup de matchs, dit couverture médiatique. Une Coupe du Monde sans couverture médiatique, bon, ça ne peut pas se faire. Alors, qu'est-il prévu? Est-ce que depuis que vous avez l'accord, que le groupement a l'accord de l'organisation de la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a déjà des partenaires de l'audiovisuel qui se sont déjà manifestés?
Alors, depuis mardi, il n'y en a pas plus que ceux qui se sont déjà tous manifestés. J'en ai le sourire aux lèvres, même si l'on ne se voit pas, puisque nous sommes malheureusement en distanciel. Mais oui, des chaînes en clair se positionnent déjà très fortement sur le sujet. Mais nous avons le temps sur... La télé et les droits télé en tant que tels, parce que vous savez, entre 2021, début 2022 et 2025, le monde de la télé va beaucoup changer. Il est déjà en pleine révolution, hein, mais il va beaucoup changer. Au demeurant, je suis intime, bien évidemment, que une Coupe du Monde, les télés, notamment en clair, et notamment, on va vous le cacher, la chaîne publique, hein, déjà rencontré. On s'est déjà rencontré. C'est important dans le cadre de la candidature de la France de pouvoir rencontrer de grandes chaînes télé. Donc bien évidemment que les discussions ont démarré, elles prendront du temps, mais elles ont démarré. Puis vous savez, Roger, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans notre France-Angleterre le 23 octobre. Oui. Pour la première fois dans le monde du rugby à 13, nous avions autant de télés qui se sont intéressés à nos équipes de France, hommes et filles. Nous avons été retransmis sur l'équipe TV, nous avons été retransmis sur nos chaînes classiques que sont Via et Sport en France, nous avons été retransmis sur BBC One, BBC Two, nous avons été retransmis sur la Fox. En Australie, nous avons eu 1 million 80 000 personnes exactement qui nous ont regardés à travers la planète le 23 octobre dernier. Et nous avons même vendu des droits télé pour ces matchs. Donc vous savez, quand on est ambitieux, on a souvent les résultats de nos ambitions. Si on n'a pas d'ambition, on a des petits résultats. Quand on est très ambitieux, on peut aller chercher quelques beaux résultats. Et au titre des télés, un événement comme celui-ci, réparti sur tout le territoire national, ça va le faire. Ça va le faire.
Alors, président, moi, j'ai une dernière question avant que je laisse la main à Denis, qui doit avoir pas mal de questions. Le championnat français, ne serait-il pas possible, il y a des personnes qui m'en ont parlé, ils m'ont dit qu'il va avoir le président Lacoste au bout du téléphone, on pose la question, est-ce qu'exceptionnellement, on ne pourrait pas cadrer en 2025 le championnat de France élite 1, comme font les Anglais, les Australiens, de manière à arriver à une fin de championnat, avoir des équipes, des joueurs en pleine forme?
Alors, plusieurs choses. Il va se passer effectivement, mais vous avez raison de poser cette question, parce que ça, ce sont plein de chantiers qui vont s'ouvrir. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, on vient d'ouvrir un immense chantier, mais pas qu'un chantier Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde va nous amener et va accélérer le plan de transformation, comme on dit, de notre fédération et de notre rugby. Beaucoup de choses vont devoir accompagner l'arrivée de la Coupe du Monde, et beaucoup de choses vont devoir être modifiées. Dans ces modifications, mais on en parlera, j'en parlerai bien évidemment avec les clubs avant d'en parler sur les antennes, il y a indéniablement la nécessité de faire évoluer notre championnat de France. Plusieurs nécessités. Première nécessité, voir comment nous allons emprunter le chemin du professionnalisme. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes considérés haut niveau, mais nous sommes plus semi-professionnels que professionnels. Il faut aller vers un championnat professionnel. Vous savez, souvent j'entends les gens qui disent pourquoi les médias ne s'intéressent pas à nous. Je dis souvent, vous m'avez entendu vous le dire souvent, c'est pas la bonne question. La question n'est pas de rejeter la charge de la preuve. La question est de savoir pourquoi les médias ne s'intéressent pas à nous. Et ils ne s'intéressent pas à nous parce qu'en fait, on ne fait pas assez d'événements, on ne crée... Une télé, un média, ça n'achète pas un club qui joue, ça achète une compétition. Quand vous regardez que même les Dragons catalans, qui sont en haut de l'affiche du championnat d'Europe, les médias français ne s'intéressent pas aux Dragons, fondamentalement. Les Dragons sont généralement obligés de payer pour pouvoir les diffuser. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, c'est la compétition à laquelle qui ne fonctionne pas avec les médias français. Donc nous, si on veut grandir, il faut absolument qu'on réforme et qu'on monte en gamme notre compétition. J'en appellerai et j'en parlerai bien évidemment au président des clubs d'élite 1 et d'élite 2 dans les prochains mois, lorsque la feuille de route sur ce que pourrait être la professionnalisation d'un championnat de France sera clairement établie. J'avance. Je ne sais pas si les présidents suivront ces recommandations, mais j'avance pour pouvoir travailler avec eux dans les prochains mois pour faire évoluer ce championnat. Sans ça, c'est une des composantes que doit permettre la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un bol d'air. La Coupe du Monde, c'est un point GPS. Et tout va petit à petit être tiré par le haut grâce à cette Coupe du Monde. Et le championnat professionnel et l'alignement de calendrier, vous imaginez, c'est l'enfer pour nous de faire des stages pour l'équipe de France, parce que souvent, nos joueurs des Dragons catalans, alors qu'on pourrait les... ont des calendriers qui sont différents des autres et différents de nos joueurs d'élite. C'est un bazar pas possible. Donc, il faudra à un moment aligner tout ça. Bon, ça va se faire petit à petit. Hein.
Alors, président, maintenant, je vais vous laisser dans les bras de notre ami Denis, qui doit avoir aussi...
Vous n'en avez pas d'autres?
Oh, j'en ai plein, mais bon, mais je vais laisser parler Denis un petit peu quand même. Denis,
bien sûr.
Oui, bien sûr. Bon, avant de revenir, j'ai pas, comment vous avez que demi-heure à nous consacrer, ça passe très vite avec vous, le président, le temps. Donc, avant de revenir à une paire de questions sur la Coupe du Monde elle-même, je vais revenir, je veux continuer sur vos propos actuels. Bon, aller vers un championnat professionnel. Bon, d'une part, pour avoir suivi en direct le discours de Monsieur le Premier ministre, il vous a fixé évidemment des objectifs en domaine économique, sociaux. On en parlera un peu, je poserai une question là-dessus. Mais également, il a été très précis au niveau sportif. Et il a dit qu'il attendait que l'équipe de France du rugby à 13 ait des résultats lors de cette Coupe du Monde. Donc, aller vers un championnat professionnel, est-ce que c'est pas aussi une nécessité, justement, par rapport au niveau, pour permettre à cette équipe de France de ne pas reposer exclusivement, comme ça va être le cas, en 2021, en 2022 pour la prochaine Coupe du Monde, sur deux seuls clubs professionnels.
Quoi rajouter à ce que vous venez de dire, si ce n'est que vous avez 1000% raison. Aujourd'hui, la difficulté de l'équipe de France, c'est de ne finalement reposer que sur deux clubs phares. Alors, il faut d'abord les remercier, parce que ils sont les fournisseurs officiels de l'équipe de France. Et pourquoi ? Parce qu'ils jouent effectivement à un niveau très haut. On ne peut d'ailleurs que se réjouir en qualité d'équipe de France. On ne peut que se réjouir de voir le Théo monter en Super League, parce que quand le Théo monte en Super League, c'est l'équipe de France qui monte en gamme. Hein. La seule petite réserve à tout ça, c'est que effectivement l'équipe de France est trop dépendante et n'a pas un panel de joueurs potentiels aussi important que nos autres compétiteurs. Donc oui, vous avez raison. La recherche d'une professionnalisation du rugby à 13 français et de son championnat doit permettre de sortir plus de joueurs français de qualité. On en sort pas mal quand même, hein. On en sort pas mal. Ça commence à être pas mal. On a des très bons pôles, les pôles espoir et le pôle de Toulouse, du Krebs de Toulouse. 96% des jeunes, enfin des joueurs français qui sont en équipe de France sortent de nos pôles. Hein. Donc on a une filière de haut niveau qui est très bien constituée, qui fonctionne très bien et depuis longtemps. Si effectivement on arrive à diversifier et à agrandir notre championnat et à le rendre plus professionnel, oui, clairement, ça sera bénéfique à l'équipe de France. Et vous avez raison. Le Premier ministre Jean Castex m'a juste mis un tout petit peu la pression. Bon, jusque-là, il est dans son rôle.
Oui. Alors, qui dit championnat professionnel aussi, dit donc besoin de finances hein, pour les clubs. Est-ce que, et bon, également, diversité, expansion, sortie, on va dire, un peu de la région Occitanie, Provence, par là, qui sont les deux régions qui aujourd'hui fournissent sont les deux régions matrices de rugby à 13. Donc tout ça, ça va nécessiter des fonds. Est-ce que la fédération sera en mesure d'aider les clubs financièrement? Est-ce que vous aurez par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des sponsors, on va venir qui participeront au financement de la Coupe du Monde, qui pourrait peut-être, anticiper leur participation et vous aider à ce niveau-là, à aider les clubs justement à s'implanter, etc. Et à se professionnaliser.
Alors, là où vous avez raison encore une fois, c'est que on peut espérer. On peut espérer des choses. On peut se dire, tiens, wow, ça serait super, il faut que ça devienne, il faut, il n'y a qu'à. Il faut que ça devienne professionnel, Yaka. Il faut Yaka. Ah, ça, Dieu que j'en entendais, il faut Yaka. Non, clairement, il est indispensable de trouver des fonds. je ne vous dirai pas, au jour d'aujourd'hui, ce sur quoi je travaille. Comme je n'ai pas toujours tout clamé haut et fort, même si je clamais les objectifs, de la manière dont nous sommes allés chercher les fonds nécessaires pour monter la Coupe du Monde. Bon. Parce que parfois, la confidentialité a du bon pour avancer dans les affaires. Ce qu'il y a de certain, c'est que un championnat ne vaut que par sa capacité à lever des droits télé. Hors des droits télé, pour l'instant, notre championnat tel qu'il est constitué n'enlève pas. Il n'est pas assez qualitatif pour pouvoir lever des droits télé. Bon. C'est donc le chien qui se mord la queue. J'ai pas de sous, donc je peux pas créer du spectacle sur... j'ai pas de sous. Ou les clubs n'ont pas assez de sous pour pouvoir créer un spectacle qui puisse attirer les télés. Donc il faut trouver une masse d'argent en capacité d'être investi dans les clubs pour que les clubs soient en capacité de créer un événement, de créer les clubs et la fédération, hein, et la fédération, une ligue professionnelle, hein, parce que la fédération, ça gère du sport amateur. Hein. Donc une ligue professionnelle dans laquelle il va falloir investir beaucoup d'argent pour créer, pour donner aux clubs ce qui dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, sera donné au travers de droits télé. Mais pour l'instant, ils n'en ont pas de droits télé, les clubs. Donc il va falloir leur apporter l'équivalent de droits télé, et dans quelques années, eh bien, ils pourront bénéficier de droits télé comme ça existe au football ou au rugby à 15. C'est ça la démarche. Et il faut investir maintenant pour, un, créer de l'équipe, de l'événement, créer des clubs en capacité d'avoir des joueurs professionnels qui vont payer, qui parfois arriveront de l'étranger, qui parfois arriveront d'Australie, qui parfois arriveront... Hein, pour créer un vrai championnat qui ressemble, qui a une valeur télévisuelle. Et c'est parce qu'on créera un championnat qui a une valeur télévisuelle qu'alors nous pourrons aller chercher des droits télé. Et c'est ça qui a de la valeur et qui va nous entraîner petit à petit. Pareil pour les sponsors. Globalement, un sponsor sur un championnat de nature à permettre à des clubs d'embaucher et de se structurer professionnellement. Il ne viendra que lorsqu'il y aura un intérêt pour lui. Et l'intérêt pour lui, il est la visibilité et il est la capacité à faire de l'activation, comme on dit. Ça, ça ne va pas se faire parce qu'on va le décréter. Donc il faut d'abord trouver des investisseurs, des sponsors, notamment financiers, pour pouvoir créer et investir dans un championnat. Et un championnat qui a de la value, comme on dit, in fine, ça veut dire dans quelques années, qui aura de la valeur d'ici quelques années. Bon, bah, on part de pas grand-chose, et ben on va essayer de lever ces sous, de lever ces fonds, qui pourront être injectés en partie dans les clubs, pour que les clubs puissent effectivement investir dans des joueurs et des structures qui petit à petit vont les faire grandir. Mais finalement, vous savez, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années dans la Super League anglaise. Ça a démarré comme ça, hein, la Super League anglaise. Donc, j'invente rien. Hein. Seule différence, c'est que j'en ai la volonté et l'ambition. Donc, on va aller le chercher avec les dents, comme la Coupe du Monde.
Alors, Président, encore deux questions en une. On revient sur vraiment la Coupe du Monde elle-même. Justement, sur les finances, cette Coupe du Monde, alors, quel en sera, je pense, le budget et en proportion, comment il sera financé. J'ai entendu, pour avoir écouté là aussi, mais je vous laisse dire quand même les proportions entre les fonds publics, les fonds privés, les fonds certainement des villes qui feront partie de... qui accueilleront des matchs. Enfin, je vous laisse...
D'accord. L'enveloppe générale budgétaire de la Coupe du Monde est de l'ordre de 60 millions d'euros. En fait, c'est 59,1. Mais bon, ça peut varier en fonction de... Vous vous doutez bien. Et le financement de cette soixantaine de millions d'euros est principalement liés à hauteur de 70% sur des fonds privés. Des fonds privés, ça va de la billetterie en passant à au sponsor et en passant à ce que l'on appelle les broadcasts, c'est-à-dire les droits télé et divers droits marketing, divers et variés qui se négocient et qui se sont négociés en partie. Il reste donc 30% qui viennent des fonds publics, que ce soit de l'État et ou des collectivités locales, directement ou indirectement par mise à disposition d'équipements, création de comités locaux d'organisation, etc. etc. Donc 70-30 sur à peu près 60 millions d'euros.
D'accord. Alors également, dans les objectifs fixés par le Premier ministre, cette Coupe du Monde devra avoir un rôle social, un peu entre guillemets, mais enfin, ça, je pense que là-dessus, monsieur Castex, il a bien mis le doigt dessus, donc là-dessus, je pense, il vous a là aussi mis une feuille de route.
Clairement, alors, on en a beaucoup parlé, hein, avec Matt Mignon, puisque nous avons travaillé pendant 9 mois de manière très serrée, finalement, comme une balle de ping-pong entre d'un côté l'État français et de l'autre côté l'International Rugby League, la fédération ayant été un petit peu au milieu de tout ça. Oui, clairement, un événement sportif, ça doit jouer aussi un rôle social. Quand vous demandez des financements publics, il est bien normal que vous apportiez un retour en face. Nous avons notamment, vous l'aurez peut-être vu dans le cadre de la conférence de presse, nous avons déjà noué des partenariats avec l'État et des organismes de l'État, notamment qui devrait se conclure dans les prochaines semaines, avec l'AFDAS, qui est un opérateur de compétences, et qui a notamment qui met à disposition des organisateurs, mais là c'est des organisateurs et de la fédération, des contrats en alternance de jeunes qui vont venir nous aider pour travailler sur, d'une part, la Coupe du Monde, mais également au sein des ligues, des comités et des clubs. Je l'ai souhaité ainsi parce que n'oublions jamais, le pourquoi de cette Coupe du Monde n'est pas la Coupe du Monde en soi. La Coupe du Monde doit servir le rugby à 13 et doit servir le développement de notre rugby. Et donc nous avons pour l'instant plus de 2000, vous m'entendez bien, 2000 jeunes qui, à partir de 2023, vont être répartis sur le territoire national pour accompagner les comités locaux d'organisation, c'est-à-dire les collectivités locales, à développer le rugby à 13, à développer tout ce qui amènera petit à petit jusqu'à la Coupe du Monde et qui pourront peut-être par la suite rester localement. Donc il va y avoir un développement social et un développement de l'emploi au travers de notre Coupe du Monde, qui va être répartie sur l'ensemble du territoire national. C'est déjà le cas. On bénéficie, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de chance. Nous allons bénéficier, pour notre Coupe du Monde, des aventures précédentes de cousins du rugby à 15 en 2023, des Jeux Olympiques de 2024. Oh, nous restons à notre place. La Coupe du Monde de rugby à 15, elle est beaucoup plus grosse et volumineuse en finances que ne l'est notre Coupe du Monde. Hein. Ça pèse à peu près 500 millions d'euros, la Coupe du Monde de rugby à 15. Et les JO de Paris, n'en parlons pas. C'est un énorme événement. Mais nous bénéficions de ces deux événements qui vont nous apporter beaucoup d'héritage. Et dans le cadre de l'AFDAS, vous avez peut-être entendu parler du projet Campus 2023. Eh bien, nous montons à peu près la même chose sur Campus 2025. Et donc, avec l'AFDAS, et donc l'État qui finance tout ou partie de ces contrats en alternance, nous allons bénéficier sur notre territoire, au sein de nos clubs, au sein de nos comités, au sein de nos ligues, de jeunes en alternance qui pourront venir sur des sujets liés purement au sport, mais également sur des sujets liés au commercial, au marketing, à la comptabilité, à la finance, au secrétariat. Et ça, c'est les ligues, les clubs, nos ligues, nos clubs, nos comités, qui vont pouvoir en bénéficier. J'aurai à ce titre-là une responsabilité vis-à-vis d'eux, mais eux vis-à-vis de nous. Bien évidemment que ces gens-là qui seront mis à leur disposition devront répondre à des exigences qu'on va leur formuler. Création de clubs féminins, création de écoles de rugby, création de ci, création de ça. On ne va pas autoriser et mettre sur la table beaucoup de moyens si en face il n'y a pas d'engagement. Tout ça pour faire grandir le rugby à 13. Et finalement, la volonté du Premier ministre, on l'a déjà discuté ensemble. Et donc, il faut bien comprendre tout ça. C'est que tout a été calibré pendant les 9 mois qu'on vient de passer. Hein.
Une dernière question pour ma part. Je sais que
vous avez
un emploi du temps chargé. Vous avez parlé du comité d'organisation de cette Coupe du Monde. Bon, est-ce qu'au niveau de la gouvernance, vous avez d'ores et déjà quelques noms à nous citer, quelques personnalités qui pourraient, ou qui sont déjà... Je crois que le futur directeur est déjà nommé.
Alors, plusieurs petites choses. Au titre purement de la gouvernance, c'est-à-dire le conseil d'administration de l'association Coupe du Monde 2025, France 2025, qui en son sein a un comité d'organisation. Ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que le directeur général du comité d'organisation était le directeur général du comité de candidature, et effectivement, c'est M. Michel Wiener, dont le monde du rugby à 13 doit d'abord le remercier du travail exceptionnel qu'il a fait pendant la candidature. Et deuxièmement, je pense que le rugby à 13 peut s'enorgueillir d'avoir un personnage comme M. Wiener à son chevet, quelque part, et en tout cas maintenant pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'est un immense professionnel, qui est l'ancien directeur des grands événements de La Poste, dirigeant de la société de La Poste, du groupe La Poste, et qui a été notamment un des dirigeants de l'Euro 2016 de football, qui avait été dans sa carrière le patron du parcours de la flamme olympique il y a bien longtemps de ça, mais il a été le patron donc de l'Euro 2016. Il a aussi participé à la candidature de la France pour le rugby à 15 en 2023, et il a également travaillé sur la candidature de la France pour les Jeux Olympiques. C'est un grand professionnel, un homme de marketing, notamment un gestionnaire, et avec une capacité de travail, extraordinaire. Et donc, bien évidemment, Michel poursuivra sa mission jusqu'en 2025. Et il sera entouré petit à petit de personnalités qui sont bien évidemment des salariés, des gens qui ne vont travailler sur ça que 24 heures sur 24 pendant 4 ans, et qui vont être embauchés petit à petit. Pour l'instant, l'équipe va être relativement réduite, même si elle va se constituer petit à petit, mais l'équipe est relativement réduite puisque l'année 2022 pour le comité d'organisation sera essentiellement portée sur le choix des villes candidates. Et ce choix va prendre du temps parce qu'il y a un temps de candidature, puis il y a un temps d'analyse et de rencontre. Vous vous rendez compte que nous allons donc aller à la rencontre de plus de 70 villes. Ça fait à peu près de mars à juillet, donc en 90 jours, nous allons aller à la rencontre de à peu près 70 villes. Donc ça fait près d'une ville par jour à aller voir. Donc ça va prendre du temps. Il faut aller voir, rencontrer les villes, négocier avec les villes, voir les installations, calibrer les installations, les mettre dans des critères particuliers, etc. Et à partir de juillet jusqu'au mois de septembre, même si notre planning nous l'autorise jusqu'à fin décembre 2022, nous avons comme volonté, à fin septembre, d'être en capacité d'annoncer les villes qui seront effectivement les villes retenues, soit pour recevoir des compétitions, soit pour recevoir des camps de base. Après, tout le reste, le conseil d'administration est constitué, on fera les annonces en temps utile, mais en tout cas, le directeur général est le grand Manitou, entre guillemets, de l'organisation, ce sera Michel Wiener, oui, absolument.
D'accord, mais ça sera un de nos prochains invités, je pense.
Oui,
ah, mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée.
Oui, on reviendra largement sur la Coupe du Monde. Je sais qu'on devait vous libérer à 18h30, mais bon, j'avais les frais de port et la TVA, j'avais prévu.
Et on est bien avec vous. On est bien sur votre antenne. On est bien avec vous. Non, ah, juste une petite chose. Juste un tout petit dernier point. Ce que je voudrais que les gens comprennent, vos auditeurs comprennent, et je sais qu'ils sont tous amoureux du rugby à 13, c'est que cette Coupe du Monde, c'est d'abord la leur. C'est d'abord celle des clubs. C'est d'abord celle de celles et ceux qui se sont battus pendant tant d'années pour continuer à faire vivre le rugby à 13, qui se battent depuis 2 ans devant cette pandémie qui nous embête bien. Et donc, c'est d'abord celle des clubs et celle des gens du terrain. Oh grand Dieu, nous avons là une chance extraordinaire, historique, de faire de notre sport ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Et peut-être de lui permettre de renouer avec son passé glorieux. Ne nous ratons pas. Soyons solidaires. Faisons-nous confiance. Faisons confiance au comité d'organisation. Faisons confiance à ce que nous avons fait en 9 mois, qui est juste historique. Je ne veux pas en rajouter trop, mais j'espère que les gens se rendent bien compte de cette chance fabuleuse qui est offerte à notre sport et au rugby à 13 de renaître et peut-être de revivre ce qu'il a pu vivre dans le passé. Donc ne galvaudons pas cette chance. Soyons tous derrière France 2025 et on va le faire revivre, ce sport. On va vraiment le faire revivre. Merci à vous, Grâce, sur Radio Marseillette.
Merci, Président. On aura l'occasion, Monsieur le Président, de se retrouver. Vous savez que vous serez toujours le bienvenu sur les ondes de la Radio Marseillette. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir. À bientôt. Allez, Liane, du temps que tu fasses une petite pause musique, une petite pause pour nos partenaires. Le temps de retrouver Michel Ouanet, l'un des coprésidents de Vélérien Aragon 13.
Allez, ça marche.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Restaurant La Barbacane. Depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Assurance Philippe Taine et Jérôme Dupin, agent général Alliance, pour une solution simple et idéale à tous vos besoins. Auto, habitation, santé, financier, assurance Alliance, cabinet Taine et Dupin, 295 chemin de Mâquins, ZI La Bourriette à Carcassonne, près de Décathlon. Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Et nous retrouvons Denis, Roger et notre ami Michel Rouanet de Villegayen, Aragon, comme il dit Roger.
Eh oui, Aragon, monsieur Michel Rouanet. Bonsoir.
Oui, bonsoir, mes chers amis, Roger et Denis.
Bonsoir. Alors, Michel, meilleurs vœux.
Oui,
merci également, également, de santé, bon. Évidemment.
Ouais, voilà, de santé, exactement. De bonheur en famille. Il y avait le rugby à 13 après cette excellente interview de notre
tout président. Tout à fait, tout à fait. C'est un rayon de soleil qui est arrivé.
Oui, oui, tout à fait. Un gros rayon de soleil. Un gros rayon.
Tout à fait.
Alors, Michel Rouanet, il y a malheureusement pleine pandémie. Ce gros match qui arrive demain à 15h. Et quel match! Villegayen-Aragon qui reçoit le grand favori, Pia, qui aimerait bien monter en élite 2. En élite 1,
oui, tout à fait.
Yeah, c'est le gros match. Mais
voilà, c'est l'affiche, de cette première partie de saison. Pia est vaincu. Maintenant, on n'a pas pour la préparation, mais c'est pareil pour tous les autres clubs. Ça a été un peu compliqué entre la pandémie et puis ces matchs reportés. Et voilà, mais bon, Pia doit être dans le même cas que nous. Mais un gros match en perspective, voilà, on attend pas mal de monde, malheureusement, on n'aura pas de recettes pour remplir les caisses du club, puisque les conditions sanitaires ne nous le permettent pas.
Oui, donc pas de bourrie, si pas de...
Il y a la bourrie aussi, mais bon, il n'y aura pas de
lunettes. Il y a l'entrée quand même, voilà. Bon, voilà. Alors, Michel Rouanet, Et cette équipe est Villegayen, est-ce que le Covid va pas un petit peu, tout comme ça, elle a finalisé, est-ce qu'il n'y aura pas des éléments clés qui vont manquer peut-être? Bon,
écoutez, déjà, sûr que Denis Montero ne sera pas là justement à cause du Covid, renu pour d'autres raisons, et puis Kevin Tisseir ne sera pas là non plus puisqu'il a été suspendu, il a écopé deux cartons jaunes dans le mois, donc automatiquement il a un match de suspension. Par contre, là, l'équipe est en train de se faire tester en ce moment Villegayen, au centre de Villegayen, puis une infirmière est venue pour les tester, puisque c'est obligatoire. Je ne peux pas vous donner encore le résultat de ces tests, mais nous espérons que ce match aura bien lieu.
Oui, mais Pierre doit être dans les mêmes conditions et tout, ça va équilibrer les choses. Mais là, c'est le match au sommet, là. C'est vraiment bon. C'est presque le niveau qu'il va y avoir, c'est un niveau d'élite 1, parce que du côté de Pierre, il y a des bons joueurs. Écoutez, là aussi, c'est pas mal non plus.
Il y a
un match fabuleux quand même.
Oui, puis bon, nous enregistrons quand même la rentrée de la dernière recrue, de Kevin Locke, là, qui a des fourris dans les jambes et qui sera là demain, quoi, sur le terrain. Nous l'espérons, oui. Voilà. Oui, oui. Enfin, c'est pratiquement sûr qu'il sera là. Donc ce sera une surprise pour nos fidèles supporters. Et puis on espère que peut-être il ferait basculer ce match. Pourquoi pas?
Voilà.
Parce que
le centre est décisif. Oui. Pardon. Est-ce qu'il va jouer au centre ou à l'aile?
Mais c'est possible qu'il joue à l'arrière.
C'est possible qu'il joue à l'arrière, d'accord.
Bon. Ouais. Voilà, oui, parce que c'est un arrière de formation, donc je pense que Vincent le mettra à son poste de prédilection. Je pense, je m'avance pas plus. Hein.
Voilà. C'est un joueur qui a un sacré pédigré quand même.
Sacré pédigré, oui, il a été 7 ou 8 fois international en Nouvelle-Zélande, il est allé jouer à Salford, il avait pris une année sabbatique ou deux ans, et puis il s'était remis en selle là, du côté de Brisbane, je crois, et enfin, avec l'équipe 2, mais bon, voilà, c'est un garçon qui va certainement nous amener.
Alors, Michel Rouanet, le petit boutade, avant dans le Cavalès, on parlait occitan, maintenant, on ne parlait anglais presque.
Mais on parle un peu anglais, mais les anglais aussi se mettent à parler occitan, hein. Voilà.
D'accord.
Des voisins poulites.
Alors, une information, ce match sera intégralement retransmis par un jeune, un nouveau venu, un tout jeune, oh, il a toujours 15 ans, hein, notre ami Didier Sier,
qui va se faire
plaisir, et on sait qu'il le fera très bien, il attend ça Trifouzis, comme on dit, hein, il est Trifouzis.
Non, mais Didier, voilà, c'est un personnage lui-même, et puis c'est vrai que pour commenter ses matchs, il n'y en a pas deux comme lui, voilà, il le vit avec passion, il représente aussi Radio Marseillette, il sera donc présent à la tribune Bernard Roque, la tribune de presse, hein, voilà, et je pense qu'il y aura deux autres journalistes qui seront invités aussi, et nous espérons faire bouillir le grand Didier Sillé. Voilà.
Oui, Denis Arcas ne pourra pas Michel, venir, mais bon,
Michel, par rapport, vous restez au niveau du Var, malheureusement pour vous, sur une défaite, le dernier match, avant la coupure pour les fêtes de Noël, cette longue coupure, ça a été une défaite à l'Escure. Alors, est-ce qu'elle a été digérée, cette défaite, hein, ou est-ce que tu penses qu'elle est restée sur l'estomac des joueurs, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être un motif de revanche par rapport à l'ensemble du club, les joueurs vont devoir de se motiver pour ne pas rester sur cette mauvaise image qu'ils avaient laissée quand même à l'Escure, ou est-ce que c'est une image plutôt négative. Qu'est-ce que tu en penses?
Ce que j'en pense, c'est que évidemment que les joueurs l'ont en travers, mais surtout les dirigeants. Les dirigeants ne comptaient pas sur une défaite à l'Escure. Je pense que notre équipe les a pris un peu trop de haut. Hein. Il faut savoir à un moment rester humble, redescendre sur terre. Hein, on n'est pas champion du monde, on n'a rien gagné. Donc ça a été un avertissement, assez sérieux, hein, parce que cette équipe de l'Escure, on les avait prévenus avant, c'est toujours compliqué là-bas. Et ils nous ont peut-être pas gagné sur le rugby, mais certainement sur la vie. Alors le match de demain, je pense que ça n'aura rien à voir avec celui de l'Escure. Les joueurs, elles sont conscients. Mais voilà, c'était peut-être une piqûre de rappel qu'il fallait leur faire. Elle a été faite. Voilà, je pense que le message est passé.
Oui, parce que demain... pour un bien.
Pardon?
C'était mal pour un bien, finalement.
Oui, mais ça serait passé. On aurait aimé finir l'année sur une meilleure note, tout à fait. Mais ce qui n'enlève pas la qualité de cette équipe de l'Escure. Hein. Je les respecte assez pour ne pas les dévaloriser.
Oui, on connaît la valeur de ces amis. Oui, je vois qu'ils ne lâchent jamais rien. Et demain, peut-être avec un talent du côté de Pia supplémentaire en termes de qualité de joueur, là aussi sans dire du mal de l'Escure, hein, c'est pas ça, mais on sait que du côté de Pia, ils ont recruté pas mal de joueurs qui évoluaient à la réserve des Dragons catalans, etc. Oui. Mais aussi, on connaît aussi les vertus catalanes, les vertus qui vont être aussi de l'engagement, etc. Donc, faut se préparer, il faut que les joueurs du Val rentrent sur le terrain avec ce désir de victoire indispensable.
Oui, Denis, tu as tout à fait raison, mais on n'a pas l'habitude, nous les dirigeants, de rentrer dans les vestiaires, par exemple, avant les matchs, ou tout ça. C'est surtout à la fin du match qu'on fait l'analyse. Les joueurs sont assez grands pour savoir ce qui les attend demain. Ils doivent une revanche à leurs supporters. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Et maintenant, bon, voilà, si Pia est vraiment supérieur, on saura le reconnaître et s'incliner. Mais bon, il faut d'abord faire ce match. Tout à fait.
Exactement. Alors les joueurs vont rentrer, Denis Artichaud, Artichaud, joueur de Pia.
Mais évidemment, c'est le match au sommet. C'est celui qu'il ne faut pas rater. Mais espérons que tous les joueurs seront dans les meilleures dispositions. Je le pense. Sincèrement, oui.
Oui, parce que là. Oui, excuse-moi, Roger.
Vas-y.
Au classement officiel, c'est le deuxième Pia qui est invaincu, qui reçoit le troisième, le Var, qui n'a qu'une seule défaite. Mais en fait, en fait, c'est le premier contre le second, puisque Yves, qui est contre la première place, a deux matchs de rencontres de plus. Donc voilà, c'est les deux équipes qui jusqu'à présent dominent ce championnat.
Mais cette équipe de Pierre qui n'a pas connu la défaite. Donc nous, nous sommes voilà. sur une défaite. Il faut stopper ça, quoi. Voilà. Et espérons que nous infligerons leur première défaite à Pierre pour être premier ex aequo avec le même nombre de matchs, évidemment. L'objectif final. Voilà.
Le premier quart d'heure va être terrible, à mon avis. Bon,
le quart d'heure et puis un peu plus quand même. Hein. Ouais, oui,
on dit ça, mais... D'entrée de jeu, il va falloir monter.
Il ne faudra pas s'attendre à des scores au fleuve, je ne le pense pas. Peut-être que ce sera très indécis jusqu'au bout. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je ne pense pas que avec deux équipes de cette valeur, ça va pas. Il n'y a pas une équipe qui va s'écrouler. Hein. Je ne pense pas. Voilà. À moins que la condition physique rentre en jeu, mais bon, on a essayé de se maintenir et Pierre a dû faire de même. Voilà.
Oui, on sait qu'à l'escure qu'on avait pu suivre, grâce à Roger, l'évolution du match, on sait que le VAR avait loupé complètement sa première mi-temps. Ça n'avait pas été un problème de condition physique, puisqu'en deuxième mi-temps,
non, c'était pas un problème de condition physique. C'était un problème de discipline. C'est l'indiscipline qui nous a fait perdre ce match. C'est clair. On a perdu les pédales, il y a eu pas mal de cartons. Oui.
Voilà. Mais aussi, vous n'êtes peut-être pas rentré dans le match comme il fallait, peut-être.
Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure, il fallait rester humble. Je pense qu'on les a sous-estimés. Hein. Voilà. On les a sous-estimés. Voilà, et ils avaient été prévenus. Hein. Nous, on le sait, depuis, ça fait des décennies qu'on joue cette équipe. Et c'est rare quand on arrive à y gagner. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'à la base.
Mais là, la source de motivation ne sera plus grande, sachant que c'est quand même...
Oui, la motivation, il sera, Denis, n'aie pas peur, ça y sera. Voilà. Par contre, j'ai appris que tu ne serais pas là, toi.
Non, je ne serai pas là, je ne serai pas parmi vous, malheureusement, mais bon, je sais que Didier se régalera.
Ah, c'est bien dommage, mais Didier sera te supplier.
Didier sera à la hauteur. Qui va s'investir un peu plus... va s'aimer un peu plus avec nous quand il sera libre, lorsque ses loisirs le permettront. En tout cas, je sais qu'il va le vivre. Je suis sûr que déjà, il est très fausiste. Il va trembler déjà.
C'est la recrue de Radio Marseillette, un peu le même style de recrue que vous avez fait.
On en est heureux, évidemment. Hein.
Voilà. Je ne révélerai pas le montant de l'année du transfert, de la négociation. Bon,
oui, il doit y avoir quelques bouteilles de bon cabardet, certainement.
Bon, il ne reste qu'une paire de chaussettes et un zip, mais bon...
c'est très bien pour tout le monde. Et pour Radio Marseillette, et pour le VAR, et pour les trésistes en général, qui se régalent d'entendre ses commentaires à la radio.
Alors j'en profite pour dire que les trésistes de Villaguen et Aragon, évidemment, et autres droits, peuvent retrouver les aventures, les échos de Villaguen et Aragon dans le Petit Journal qui paraît le mercredi et le jeudi. Ça présente tous les départements et c'est une fenêtre importante offerte à Villaguen Aragon, un Petit Journal, qui parle beaucoup de rugby à 13 dans son journal et d'autres sports, évidemment, mais c'était bien, bon, c'est une bonne fenêtre, c'est bien, on en remercie notre ami Alain Andrieux, le petit patron, si on va dire, il va pas être content du Petit Journal dans l'ordre, voilà, ça c'est...
C'est très bien, il n'y a plus que des textes, puisqu'il y a eu une illustration, une photo, j'ai eu cette semaine,
il
raconte un peu de l'activité de certains dirigeants du club, et voilà, ça avance.
Et oui, ça démontre qu'il y a des Picasso chez nous, des Rembrandt, des Renoir, pas puis, de donner des coups de pinceau.
C'est surtout qu'il y a pas mal de travail à faire, quoi. Même quand on ne joue pas, il y a de l'extra sportif et il faut s'en occuper.
Et puis il y aura le 24 janvier l'Assemblée générale du club, là, réservée aux dirigeants.
Oui, oui.
Qui sera lieu, bon, à Villeray, Aragon.
Ah, mais ce sera, oui, un comité restreint, parce que voilà, on ne peut pas, inviter
les
partenaires, voilà, c'est compliqué. Et voilà, c'est une obligation légale, nous allons le faire donc à la fin de ce mois-ci, les dirigeants et peut-être les représentants des municipalités d'Aragon et de Villegaillet, nous espérons.
Très bien. En tout cas, voilà, merci Michel Rouanet.
Oui, je pourrais rajouter un petit mot par rapport à l'intervention de Monsieur le Président de la Fédération de rugby à 13. Je voulais le féliciter
pour
cette organisation de la Coupe du Monde, enfin en espérant que notre sport redevienne un peu dans la lumière qu'il a connue. Voilà. En tout cas, un grand merci à lui et à son équipe.
C'est ce qu'on espère tous et on se joint à tes remerciements. Et vivement demain,
voilà, je pense qu'il faut être tous derrière. Hein.
Ouais, oui, il faut le soutenir. Voilà. Hein. C'est une chance énorme.
Hein. On a fait critiquer
pendant un certain temps. Bon, maintenant,
parce que il faut commencer. Si on pouvait espérer voir le bout du tunnel, ce serait merveilleux.
Voilà. Ça sera très bien. Demain à 15h, rendez-vous au stade Jérôme Rieux avec Radio Marseillette. Et ce match entre Ville et Aragon et Pia.
Et ne ratez pas le début du match,
je l'écouterai, je ne peux que l'écouter maintenant, mais je m'en régalerai. Michel Rouanet, merci.
C'est très bien.
Michel Rouanet, restez au téléphone, Michel Rouanet, je vous rappelle dès qu'on aura raccroché. En tout cas, rendez-vous demain, merci Denis.
Oui, juste un petit mot, je termine, puisqu'il va vous donner les matchs du week-end. Sur Radio Marseillette, ce sera le seul match, puisque l'élite ne joue pas. Mais en élite 2, puisque c'est la journée du week-end dernier, une partie de la journée du week-end dernier, qui devait se jouer le week-end dernier, qui a été reportée pour des raisons de Covid. Dans tous les cas, un match est joué la semaine dernière, c'est Carpentras qui a battu l'Escure à Carpentras 44 à 22.
Largement.
Carpentras qui a renoué avec la victoire. Donc demain après-midi, il y aura ce match entre le Varle et les Baroudeurs de Pia. Et dimanche à 15h, deux autres matchs, toujours en élite 2. Villefranche-l'Aveyron qui recevra Entraigue et Bao qui recevra Grattentour. Voilà pour le programme, le maigre programme, mais... Espérons que tout le match va repartir, on s'adapte.
En espérant que nous puissions terminer notre championnat, puisque existe la Coupe de France. Voilà, terminons notre championnat et ce sera déjà bien.
Très bien, merci Michel, Denis.
Merci monsieur, à très très bientôt
Merci au président de la fédération.
Oui, tout à fait.
Au revoir.
Allez, au revoir,
Alia. Au revoir à tous.
Ciao, Alicia, à tutti.